Bienvenue à tous sur la route 66, vous êtes sur Radio RDL 103.5 FM à Colmar avec Jean-Luc et David.
Et oui, salut à tous, bienvenue dans route 66 et ils en ont de la chance les auditeurs de l'émission depuis quelques semaines puisque après Van Vilks, le chanteur guitariste texan, c'est un autre invité de marque que l'on reçoit aujourd'hui en la personne de monsieur Peter Nathanson. Ça me fait très plaisir de le recevoir en tout cas parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je lui cours après pour des interviews, des choses comme ça, le rendez-vous n'avait jamais pu se faire et enfin il est venu, il est parmi nous, c'est un vrai miracle. Merci à toi, Peter, de répondre présent au rendez-vous.
Merci.
En tout cas, Peter, comme vous le savez, toutes et tous, a sorti il y a de cela quelques mois un album live qui s'appelle Urban Blues, enregistré en France, qui est un peu son pays d'adoption, puisque Peter vit dans l'Hexagone depuis 18 ans maintenant, ce qui lui vaut de parler parfaitement le français. Cependant, le personnage est évidemment natif des USA, hein, du côté de Boston, et il a déjà une longue, longue carrière derrière lui. On va donc en parler tout au long de l'émission, mais on va agrémenter celle-ci de quelques titres issus justement de ce dernier album en date, et nous allons commencer immédiatement avec I Don't Believe. C'est ok, Peter?
Yes, on y va.
Ben on y va alors, c'est parti.
Thank you.
I Don't Believe, monsieur Peter Nathanson, issu de son dernier album en date, le live Urban Blues. Alors nous allons profiter d'avoir Peter en notre compagnie afin de lui poser quelques petites questions et non des moindres. Et évidemment, nous allons commencer par les tout débuts, à savoir son enfance du côté de Boston aux USA. Alors est-ce que tu pourrais un petit peu revenir sur cette période de ta vie et plus particulièrement sur la façon dont tu as découvert la musique?
J'étais né dans une petite ville en dehors, 8 miles en dehors de Boston, s'appelle Newton. C'était une ville relativement friquée, il faut dire. Nous, pas vraiment, mais la ville, oui. Et en fait, c'était une ville très sportive. Et en fait, ma famille était très sportive. Mon père, il était presque professionnel dans quelques sports quand il était plus jeune. Donc on a suivi un peu le chemin du sportif et je crois ça me tapé un peu trop sur les nerfs, même si j'aimais beaucoup le sport. Et en découvert de Hendrix, j'ai un peu découvert ma faiblesse, c'est la guitare. Et au fur et à mesure, je commence de faire un peu moins sport et un peu plus de musique. Après l'école, j'ai même pas traîné trop avec les amis. J'ai passé direct des classes à rentrer chez moi où c'était très calme pour justement jouer, travailler, repiquer des riffs sur les disques. J'ai branché directement dans le sono de mon père et j'ai complètement explosé les enceintes. Il a jamais su, en fait. Et voilà, c'était un peu dans cette ville et dans ma famille très sportive et très monodirectionnelle, si tu veux. C'est un peu ma trouvaille, quoi.
Et tu étais jeune, hein, tu as commencé à l'âge de 12 ans, je crois.
En 12 ans, ouais.
Et les groupes sont venus par la suite tu t'es d'abord vraiment... Tu as appris par toi-même, tu as pris des cours, comment ça s'est passé?
En fait, 12 à 14 ans, j'ai pris les cours traditionnels. Où à cette époque c'était vraiment regurgitation des chansons d'époque, hein. Et je crois après 2 ans de ça, j'étais un peu, ça me gonflait un peu. Et je me rappelle, après ça, j'ai cherché quelque chose de plus intéressant. Et mes parents, ils essaient de me faire entrer dans un genre de conservatoire, mais ils s'est fait arnaquer grave, parce que le monsieur qui est venu pour nous vendre des cours de guitare, il est parti de la maison en avoir vendu à mes parents un accordéon et 1 an de cours d'accordéon en disant que c'est la meilleure manière d'apprendre la guitare.
C'était un bon commercial en tout cas.
Oui,
si c'était un hacker, c'était un bon
il
commercial.
Il était très fort. Et donc, j'ai passé 1 an de jouer l'accordéon.
D'accord.
Et je crois à 15 ans, j'avais un peu marre et j'ai arrêté. Parce que je me suis dit, il n'y a aucun moyen d'apprendre la guitare. À 16 ans, c'était le moment, la grande découverte de Hendrix. Ouais. Et à ce moment, c'était vraiment sérieux, j'avais un strato blanc et tout.
Comme Hendrix.
Voilà.
Et là, tu t'es rendu compte que finalement, l'accordéon ne t'avait servi à rien pour l'apprentissage
de
la guitare.
Voilà, non, voilà, je crois que ça a servi une grande leçon de mes parents, mais moi non.
Et tu as rapidement fondé des groupes à toi ou...
Oui, en fait, oui, j'avais quelques amis, en fait, toujours un bassiste qui était dans un grand groupe à Boston, je ne me rappelle plus le nom, il avait quelques tubes, et un batteur qui est maintenant toujours dans la production, et oui, on avait formé 2 groupes. En quelle classe c'était après 6e, c'est quoi en France?
5e.
5e, voilà. Donc okay. C'était en 5e, 4e et 3e.
D'accord.
Voilà.
Ok. Et encore une chose un petit peu particulière en ce qui te concerne, c'est que tu as quand même une formation musicale assez poussée, hein, puisque j'ai vu que tu étais diplômé d'une grande école de Los Angeles. Est-ce que ça t'a vraiment appris quelque chose en tant que musicien?
Oui, parce que en fait. La manière qu'on apprend le blues aux États-Unis, c'est que on se met avec des potes autour en platine et on pique des riffs parce que c'est vraiment la seule manière d'apprendre directement le blues, tu as tout le phrasé et tout. Mm-hmm. Et un jour, quelqu'un a mis un disque d'un monsieur. Et avant, on avait toujours trouvé les notes pour piquer les riffs. Bon, on n'a pas bien joué les riffs, mais on a trouvé des notes. Mm-hmm. Et un ami a mis un disque d'un monsieur qui s'appelle Charlie Christian. Mm-hmm. Et j'arrivais pas à trouver les notes. C'est la première fois que j'arrivais pas à trouver les notes. Et je crois que ça me vexait grave. Et ça me donne tout le désir et pulsion d'étudier la musique parce que je me suis dit, ah mais attends, je sais que ces notes existent sur la guitare, mais pourquoi je n'arrive pas à le trouver? Mm-hmm. Et c'était vraiment ça qui m'a forcé, poussé d'aller étudier.
D'étudier à LA. Hein. Mm-hmm. Donc en fait, tu as une formation qui est aussi, tu es assez connaisseur finalement en jazz.
Oui, oui, je travaille et en privé, je joue beaucoup de jazz.
D'accord, ouais. Donc ça c'est une de tes passions. Hein. Ouais. J'ai également pu lire par-ci par-là que tu avais eu l'occasion de côtoyer à ce moment-là, alors je ne sais pas si c'était à cette période ou après, Steve Lukather
oui.
Et Robin Ford.
Oui, c'était cette époque.
Ouais, hein, c'était à cette époque, oui, ouais. Oui, oui. Et donc là, c'était dans quel cadre? C'était justement pour les cours ou alors c'était pour des bœufs?
C'était cours, c'était cours, des bœufs, c'est dans le couloir avec ta guitare et tu croises Robin Ford qui a sa guitare. Et tu dis comment t'as fait cette riff et il te montre. C'était une ambiance.
Donc il y avait vraiment de la connivence en fait. Il y avait pas vraiment de concurrence entre vous. C'était vraiment bon enfant. Vous échangiez les plans quoi.
Surtout. Ils sont là pour nous aider et ils donnent tout de cœur. Pour faire ça.
Ouais. Ok. Bah, en tout cas, Peter a bien retenu la leçon, hein, c'est le moins que l'on puisse dire, tel que va l'attester le prochain morceau qu'on se passe, toujours extrait de son album Urban Blues, ça s'appelle Louisiana Blues. C'est parti. Blues, Peter Nathanson, qui est toujours notre invité sur le 103.5 FM. Vous êtes à l'écoute de Route 66 sur RDL. Alors, Peter, évidemment, c'est un artiste de blues avant tout. Alors, je crois qu'il y a une rencontre, justement, qui a beaucoup compté dans ce domaine-là pour toi. C'est avec un autre guitariste qui est Steve Jacobs, qui a longtemps accompagné le regretté Kerry Bell. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les circonstances de cette rencontre? Et est-ce que, justement, ça a été ça le déclic pour toi vers le blues pur et dur?
Oui, oui, vous avez bien dit. C'est exactement ça. Steve, c'était un des groupes qui a se réunit pour piquer des riffs et pour jammer. Mm-hmm. Bon, il était un peu plus âgé que nous. Et en fait, à ce moment-là, il était le bassiste d'un grand groupe à Boston, avec notablement Tom Principato à la guitare.
D'accord.
Ça s'appelle la Powerhouse Blues Band. Mm-hmm. Pierre Beauregard en harmonica. Je crois que c'était Ron Levy, le grand pianiste à la piano. Et chanteur George Lay, super chanteur. Et, mais par contre, lui, grand bassiste, son passion était guitare. Et on s'est réunis chez lui pour apprendre les riffs. Et lui, il avait toujours les petites en plus pour la différence entre le blues et juste un autre riff ou juste un autre solo sur la guitare. Et souvent, on écoute les riffs chez lui. Il avait une salle, une petite pièce avec mais rien sauf quelques amplis et un banc. Et on se rentre là pour jammer pendant des heures. Et après ça, on retourne dans sa chambre pour écouter de musique. Et il m'a fait découvrir Peter Green, Albert King, le côté blues de Hendrix. Mm-hmm. Et lui, c'était vraiment le déclic qui m'avait fait réaliser que même si le métier en blues en tant qu'étude est relativement simple, la profondeur de style et le genre est sans fin.
Mm-hmm. D'accord. Et à partir de quand es-tu passé musicien professionnel? À partir de quel moment as-tu commencé à gagner de l'argent avec la musique?
Je crois que c'était vraiment juste après ça, parce que bon, j'étais toujours dans les groupes qui jouent, on était payé, mais j'ai arrêté l'université, je crois j'avais 19 ans, parce que j'ai vu le jouer. C'est tout. Et j'ai fait une audition pour un groupe à Rhode Island, ça s'appelle Stovall Brown, il existe toujours à Boston. Et j'étais pris, et voilà, on a tourné 7 jours sur 7, littéralement. Bon, de temps en temps, 6 jours sur 7, mais honnêtement, j'exagère pas quand je dis que c'était 7 jours sur 7.
D'accord.
Et on était en salaire. Et,
ok. Et donc ta période américaine, finalement, ça a toujours été avec des groupes, jamais sous ton propre nom?
Non, jamais. Jamais sous mon nom, c'était toujours un sideman aux États-Unis.
Ok. Ouais. Et c'est à ce moment-là que tu as eu l'occasion de partager la scène, finalement, avec de grandes vedettes, lors de premières parties, hein, notamment John Lee Hooker, James Cotton.
Exact, parce qu'on avait un gig régulier tous les lundis soir dans le club de Bruce Springsteen, le Fastlane, Asbury Park.
D'accord.
Et il était là souvent. On était très amis avec le groupe de Southside Johnny.
Ouais. Mm-hmm.
Souvent, leur section cuivre avec le bamba, ils sont venus buffer avec nous. Le bamba, c'est le gros mec avec trombone.
Ouais.
Et je l'avais vu récemment, il était sur un disque, ça m'étonnait. Et oui, chaque lundi, on s'est réunis. Et en plus des lundis, on a souvent passé là-bas pour les premières parties de John Lee, de James Cotton, de Good Rats, des gens comme ça.
D'accord. Alors, et donc, tu as pu côtoyer Bruce Springsteen dans des conditions idéales.
Ouais, ouais.
Est-ce que tu as eu l'occasion de faire un bœuf avec
lui? Non, justement, j'étais fâché.
Dommage.
Ouais, c'était l'ego du chanteur. C'est Christova, c'est un mec super, super doué et tout. Mais je l'avais demandé la première fois qu'on a rencontré Bruce, et j'ai dit, mais pourquoi t'as pas demandé de faire un bœuf? Il dit, oh non, je veux pas l'embêter, tout le monde lui demande de faire le bœuf. Bon, écoute, peut-être c'était poli. Je ne sais pas, mais j'étais fâché. Parce que ça aurait été génial.
Il revient bientôt en France. Hein.
Ah ouais?
Au mois de décembre, ouais. Alors, il faudrait essayer de reprendre des contacts avec lui. Il a tendance, quand il passe en France, d'inviter ses anciens potes. Hein,
Moi, on n'était pas potes, mais je ne sais pas s'il me souvient de moi, mais c'était quand même une bonne expérience.
Ouais, j'imagine. Alors, il y a quelque chose quand même de très paradoxal, puisqu'après, tu t'es installé en France, hein, après cette expérience.
Oui.
Ou un peu plus tard, il y a eu
un
quelque
peu
chose,
plus tard, parce que c'était Californie entre.
D'accord, tu as donc tu t'es frotté à la scène californienne.
C'était après ce groupe, je suis allé en Californie.
Ouais, Californie qui est une scène aussi assez spécifique. Alors là, tu t'es produit dans des registres différents, des blues différents.
Oui, c'était un peu plus. J'étais dans un groupe de blues qui a tourné sur la côte avec une chanteuse. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Dan Hicks and the Hot Licks.
Ouais.
C'est un groupe de les années 60, San Francisco. Mm-hmm. Elle était une chanteuse, un des Hot Licks en fait. Le Hot Licks était trois chanteuses.
Okay.
Et elle avait son groupe et on avait tourné et même on avait un deal de faire un mini disque, 5 titres. Et on entre dans le studio, on a enregistré ce disque et il avait beaucoup de promotions faites et on avait des tournées déclenchées en Japon. Et un jour, le producteur arrive dans le studio, on est en train de finir le disque et je le vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est très déprimé. Et bon, on a arrêté de jouer, on a entendu, il s'appelle Steve Scully. Et on a dit, Steve, qu'est-ce qui se passe? Il dit, le comptable se met une balle dans la tête hier soir et il était en train de voler la maison 10 depuis 5 ans. On n'a plus un rond.
Ouais.
Et c'était fini. Stop. Et l'ingénieur était Dave Jurgens, qui était l'ingénieur des Stones, de Frank Zappa, de Mick Jagger, de Pat Benatar. Donc c'était monstrueux. Et ça finit comme ça.
Aïe. Et c'est sur ce coup dur que tu as décidé de t'installer en France.
Oui, c'est un peu ça.
C'est en partie quoi. C'est plus des raisons musicales que personnelles qui t'ont amené à venir.
Non,
ici
on est venu en France parce que en fait j'étais marié avec une Française.
D'accord.
Et avec entre temps on était redéménagé à Boston et avec la naissance de notre premier enfant, l'appel de sa famille était très fort. Mm-hmm. Et ses racines. Donc moi je me suis dit bon, moi je peux. Mmh. Bouger parce que j'ai le métier pour justement s'installer n'importe où on s'est installé en France comme ça.
Et tu as pu t'intégrer facilement à la scène française, la scène musicale et plus spécifiquement la scène blues, ça s'est fait facilement?
Non, c'est très difficile. J'imagine c'est quelque chose de culturel. Et c'est surtout quelque chose par rapport à la quantité de travail qui existe. C'est assez fermé. Je suis arrivé, mais ce n'était pas facile. Je sais aux États-Unis, si on joue bien et on est relativement sympa, on peut aller faire des bœufs pendant une semaine et deux, trois semaines plus tard, on a des gigs, on a du travail. Bon, ça c'est bien sûr, c'est la manière que l'attitude des Américains et le fait qu'il y ait beaucoup de travail là-bas, donc qui n'est pas le cas en France. Donc c'était un peu difficile, il faut dire.
Et quels sont les premiers amis dans le milieu que tu t'es fait?
Les premiers amis, Jean-Patrick Capdevielle.
Ah oui. Ouais. Donc pas forcément dans le blues, quoi.
Oui, non, c'était non. Et j'ai travaillé avec lui. Un clavier s'appelle Vic Emerson qui était avec Tennessee. Ouais. Et Bashung aussi. Et Philip Doga, le bassiste de Bijou.
D'accord.
Okay. On a fait un disque, son solo. Et ça, c'est mes premiers contacts. Et j'avais quelques contacts dans les studios. Le père de Thibaut Abriel.
Ouais. Ouais. Roger Abriel, non?
Non, Patrick. Oui, c'est Patrick Abriel, je crois. Et bon, il m'avait filé quelques séances studio. Ouais. Et j'avais quelque chose comme ça.
D'accord. Ok, parfait. Ben, on va continuer en musique cette émission. Et puis, juste après ce morceau qu'on va se passer immédiatement, je crois que Peter nous a réservé la surprise, puisqu'il est venu avec... une guitare nationale, donc il va nous faire un petit morceau en live, mais tout de suite on le retrouve avec un extrait de son dernier album et ça s'appelle Stay With Me Baby, c'est parti. êtes sur le 103.5 FM, mais ça vous le savez déjà, l'écoute de RDL, l'émission Route 66. Alors je vous rappelle que l'émission, vous pouvez la retrouver sur internet, sur notre site, sur laroute66.free.fr. Il y a déjà près de 300 interviews de transcrites, des centaines de photos, des dizaines de reportages. Et il y aura bientôt justement un reportage sur la venue dans l'émission de Peter Nathanson, ainsi que la retranscription de l'interview qu'il est en train de nous accorder en ce moment même. Alors Peter, on t'a entendu en formule électrique avec ton groupe, issu de cet album live dont je rappelle le nom, Urban Blues, qui est distribué par Mosaïque en France. Alors je crois que tu nous as réservé la surprise également de nous interpréter quelques titres, rien que pour nous, rien que pour les auditeurs de l'émission, en acoustique avec une guitare réseauphonique, comme on dit,
exactement,
entièrement métallique.
Exactement.
Alors, c'est, tiens, pendant que tu t'installes, est-ce que tu peux un peu nous parler de ces fameuses guitares?
Bon, c'était dans le style, le fameux style de Nash, je crois, le premier, c'était un dobro.
Hein. Ouais.
Et bon, c'est avec un résonateur. Et bon, c'est Fender, mon sponsor, qui fait cette guitare. Et c'est génial parce que c'est une guitare qui n'est pas très chère, mais avec un bon micro dedans, on a un très bon son de dobro. Bon, peut-être ça vaut pas les dobros de l'année 50, comme Monsieur Verbeck, il a, salaud.
Oh, il a même des plus anciens.
Ah, il a un beau, il a quelques très belles. Mais bref, c'est. T'entends, ça sonne vraiment.
Ouais, ouais, ça sonne bien. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas nous interpréter?
En fait, je vais vous jouer mon premier morceau que j'ai appris, Slide. Okay. C'est un morceau de Johnny Winter, s'appelle Dallas. Okay. Come back to Dallas, take my razor and my gun. Driving back to Dallas, take my razor and my gun.
Yeah. Je suis seul à pouvoir applaudir, hein, mais je suis sûr que derrière leur poste, tout le monde en fait autant. Voilà. Allez, le temps de te rafraîchir, on va en profiter pour se passer un nouvel extrait de ton album. Un album, hein, je tiens à le préciser, quand même produit par Mike Butchner.
C'était mixé par Mike Butcher.
Qui est quand même
un grand
nom, hein, puisqu'il a travaillé dans le passé avec des gens tels que Marvin Gaye ou Rod Stewart.
Rod Stewart, exactly.
Black Sabbath. Oui. Black Sabbath aussi, ouais, donc c'est quand même une sacrée pointure.
Et il travaille avec Snoop Dogg en ce moment.
Ah oui, d'accord, ouais, donc lui aussi il a une palette très large. Hein.
Oui, très large.
Ok, alors on se passe un morceau, un grand classique de Robert Johnson, histoire de continuer dans le bon vieux blues. Et ça s'appelle justement Walking Blues, Peter Nathanson. Go.
Shoe. No
est le plus français des bluesmen américains. Et puis il est notre invité aujourd'hui dans l'émission. On en a de la chance. C'est Peter Nathanson qu'on vient d'entendre avec sa vision du Walking Blues de Robert Johnson. Alors, comme on le disait précédemment, donc tu es installé en France depuis un petit moment. Mm-hmm. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu paradoxal dans ton cursus, c'est qu'en 2005, tu as été élu le meilleur guitariste européen.
Oui.
Qu'est-ce que ça fait pour un Américain d'être élu meilleur guitariste européen?
Écoute, dans ce monde divers maintenant, je trouve ça suit. Ça suit, c'est normal, il n'y a plus de frontières vraiment.
Ouais. Pour en revenir à ton style, comment tu le définirais? Parce que finalement, c'est vrai que tu as des compos, mais tu reprends aussi des titres de groupe rock, voire pop, mais tu reprends aussi des standards du blues, tu fais un mixte de tout ça. Alors comment tu définirais ton propre style finalement?
Bâtard. J'avais beaucoup de journalistes en fait qui m'avaient dit, mais tu fais quoi exactement? Mon problème, c'est que je suis très éclectique dans mon style de jeu, parce que intellectuellement j'aime physiquement sur la guitare plein de choses, fusion et jazz, j'aime beaucoup comment ça sent en dessous des doigts quand on les joue. Niveau passion, en fait je suis pas très large, je suis très étroite niveau passion. J'aime les choses qui sont sales, qui sont méchants, qui passent un message. Et donc, évidemment, c'est pourquoi dans mon carrière, de temps en temps, je sens un peu de blues, mais je reviens toujours parce que le passion que j'ai pour ce genre de musique, c'est je peux rien trouver qui me satisfait autant.
D'accord. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ta discographie depuis que tu es arrivé chez nous?
Oui, en 94, j'ai reçu un offre d'une maison de disques en Allemagne, Osnabrück, Allemagne, qu'ils ont voulu produire un disque parce qu'ils ont entendu une maquette que j'avais faite. Donc on avait fait ça. Et bon, il n'avait pas un petit distribution en Allemagne et j'avais pas une distribution en France. J'avais des tournées et comme souvent, malheureusement, les relations avec la maison disque a tombé en ruine parce que on n'était jamais d'accord sur le compte, on peut dire. Après ça, j'étais un peu dégoûté justement de le circuit. Parce que c'était très difficile et c'était très... J'ai remarqué plein de escroqueries niveau maison disque. Donc j'ai monté un trio où j'ai vraiment voulu improviser dans n'importe quelle manière avec le base d'un blues lourd et dur. Et donc on a commencé à faire ça. On a tourné beaucoup. Et c'était improvisation chaque nuit, d'une très très petite base de morceaux. Et en fait, on avait super succès. Bon, et j'étais ignoré par le circuit blues parce que c'était, dans leur estimation, c'était pas blues. Mais je me suis dit, écoute, il faut absolument qu'on enregistre ça parce que les gens aiment. Donc, on a enregistré Under the Acid Sky. Et c'était mon dernier époque où j'ai joué beaucoup de fusion et des phrases très vite, avec un son très gros et saturé. Et après ça, justement, j'ai voulu retourner une fois encore vers le blues, avec mes compos. J'ai voulu toucher un peu plus de auditeurs dans le blues. Donc, Hoodoo Guru a suivi ça. Et le fait que j'avais pas mal de succès avec Hoodoo Guru, j'ai suivi Hoodoo Guru avec Riviera Rose. Et comme un peu un thème dans peut-être la vie de tous les artistes blues, j'avais encore un problème de maison disque où le promotion était arrêtée 5 semaines après. Promotion et distribution. Était arrêté 5 semaines après la sortie.
Ouais, ça fait léger.
Et j'avais des super chroniques. Et bon, bien sûr, j'avais pas mal de dates, mais avec l'annulation de distribution et l'aide de promo par la maison disque, j'avais perdu pas mal de ces dates. Et bon, c'était une période un peu noire dans mon carrière. Et à ce moment-là, je suis un peu caché derrière Ibanez. Parce qu'il m'avait demandé de faire des démos, des choses comme ça. Donc, j'ai un peu laissé tomber tout. Et après ça, j'ai changé mes boîtes de sponsor avec Fender. Et j'ai pensé que c'était temps de faire un disque. Mais justement, le fait que j'avais un mauvais goût dans la bouche pour un disque de mes compos où j'ai mis beaucoup de sentiments personnels, j'ai décidé de faire quelque chose un peu fun et qui trace un peu l'histoire de mon apprentissage de blues et quelque chose un peu léger et ouvert et voilà. Donc, okay.
Tout ça pour donner naissance donc à ce dernier album Urban Blues, où l'on retrouve deux musiciens dont à la basse Guy Fritsch qui est toujours avec toi, fidèle au poste, et puis sur ce disque Dudu Weiss qui est un batteur légendaire faut pas oublier de citer ces gens-là.
Exactement.
Alors, je te propose tout simplement de reprendre ta guitare, peut-être, si tu le veux bien, afin de nous interpréter un second titre en live et en acoustique.
Exact. Bon, c'est un morceau que j'ai écrit exprès pour le dobro. Je ne sais pas si ça va être sur le prochain disque, mais quelque chose. Trouble Again s'appelle. Walking these city streets, you got me so blind, baby, I can't see nothing but your pale blue eyes in the sky. Don't you know it's gonna be alright? Now that I've seen the light, but baby, can't you see I got myself in trouble? Trouble come and trouble go, like the teardrops in the snow, but nothing can stop me from moving on. Don't you know it's gonna be alright? Now that I've found the light, but baby, can't you see I got myself in trouble?
Encore un morceau de Peter avant de se retrouver, puisque l'émission touche déjà à sa fin. Peter Nathanson avec un nouvel extrait de Urban Blues, You Got Me. C'est parti. temps imparti touchant presque à sa fin, nous sommes malheureusement obligés de chanter ce morceau. J'espère que tu ne m'en voudras pas trop, Peter. Je tenais quand même à conclure l'émission avec toi. Alors, simplement un petit peu pour parler de tes projets à venir.
Justement, on commence à discuter le prochain disque. J'ai trois choses qui me tentent. Encore un disque comme ça. Peut-être à la base live, mais un tout petit peu plus de travail dessus. Un disque solo.
D'accord.
Acoustique, dobro.
Okay.
Quelque chose comme ça. Ça fait depuis un moment, ça me trotte dans la tête. Je ne sais pas si c'est le moment. Faut que je vois, je vais parler avec des gens. Et le troisième, c'est un projet avec une chanteuse, super chanteuse, s'appelle Elisa Blue, de faire justement, on a un duo déjà, on fait du jazz blues, mais de faire un disque avec elle, acoustique, dobro acoustique, et qu'elle chante.
D'accord.
Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire en fait, mais okay. J'ai en train de définir ça maintenant. Justement.
Ok, donc l'horizon en tout cas a l'air de bien se dégager.
Oui.
Il y a des choses à
des choses
qui
en
se profilent, donc c'est plutôt bien sympathique. Tu as un site internet, je crois.
Oui, c'est peternatson.com.
Ok, et puis un MySpace évidemment.
Et un MySpace,
comme tout le monde.
/peternatson, exact.
Ok, parfait. Est-ce que tu aurais une conclusion à ajouter à cet entretien?
Non, je supplie les gens pour télécharge un peu moins vos musiques, prendre le temps de sortir, il fait beau de temps en temps,
ouais.
Les samedis, balade dans les rayons de musique, achète des disques, parce que sinon, honnêtement, dans 10 ans, les disques vont n'exister plus, et les artistes petits et moyens que vous aimez tant qu'on vont être obligés de disparaître un peu. Et voilà, sinon, sortez aussi pour les concerts, parce qu'il faut qu'on soutienne les clubs, qu'ils ont le courage de continuer de faire ce genre de musique. Tant que c'est pas Madonna ou Britney Spears, ça marche un peu grâce à vous. Voilà.
Okay.
Merci.
Et ben, pour ma part, pour conclure, je tenais simplement à te remercier, hein, parce que bon, on va le dire aux auditeurs, l'émission est enregistrée en pleine matinée, un lendemain de concert, donc
c'est
d'autant plus de mérite pour toi d'être venu, d'être déplacé jusqu'à nous. Merci beaucoup, Peter. Alors, Peter, vous le retrouverez bientôt sur le site internet de l'émission, sur laroute66.free.fr, avec une interview qui sera transcrite, un reportage avec des photos et également les vidéos, hein, puisqu'on s'est permis
très
de
bien.
L'enregistrer.
Exact.
Allez, on se quitte avec un dernier titre de cet album que je vous recommande chaudement, Urban Blues, Peter Nathanson. C'est du live, c'est distribué par Mosaïque en France, hein, ça se trouve chez tous les bons marchands de couleurs, ou alors vous le trouverez facilement sur internet, ne serait-ce que via le site de Mosaïque Music. Mm-hmm. On se retrouve la semaine prochaine avec encore plein de surprises, et puis d'autres invités qui se profilent également à l'horizon. Merci encore, Peter, et puis on se quitte donc avec ce morceau qui s'appelle, c'est pas un message que je te lance, hein, mais le morceau s'appelle Give Me a Penny. Salut à tous et bonne route, ciao.
Au revoir. Thank you.
tell me she's all alone. Yeah, I'm just trying to explain. I need a pen to call my baby. Satisfied. Give me a penny, baby. Give me a penny, baby. My girl, my girlfriend, she left me. Give me a penny, baby. I feel so dissatisfied when I come home. When I come home from the work and the evening, baby. Give me a penny, baby. Give me a penny. I still got a highway to go home.
Yeah, give me a penny.